À Turin, d'ailleurs, c'est très frappant. Il y a l'école des Salésiens d'un côté, Don Bosco, et puis de l'autre côté, Cotolengo, Joseph Cotolengo, qui était ce grand saint qui s'occupait des plus pauvres aussi. On était en pleine période de troubles. Les guerres napoléoniennes se terminaient. Waterloo, c'est 1815. C'est l'année de naissance même de Jean Bosco. Et puis ensuite, c'est l'éveil des nationalités, 1848. L'Europe est à feu, à sang de tous les côtés. La guerre, la violence, la famine, les maladies, avec ça, le choléra qui se diffuse, différentes maladies qui se répandent, l'industrialisation qui commence aussi avec son lot de misère et de souffrance. Et il y a de quoi répondre avec l'Évangile à toutes ces souffrances et ces misères. Et Don Bosco fait partie de ces amis de Dieu appelés par le Seigneur lui-même à apporter une réponse à la misère de ce siècle. En se mettant à l'école de Jean Bosco, ça, on dit, ils sont plus admirables qu'imitables. Ils sont admirables, c'est vrai, Saint Jean Bosco en étant en particulier, imitables non pas tant dans ce qu'ils ont fait à l'extérieur que dans ce qui les brûle intérieurement pour agir. Et c'est là qu'il y a le caractère particulier de chaque saint, au fond. Ils brûlent du feu de l'amour de Dieu. On le verra. Alors ensuite, comment ça se manifeste à l'extérieur? Ben ça dépend du bon Dieu, puis de la personne, du caractère, tempérament et de la mission qui est confiée. Mais il y a un feu brûlant qui est là. Et c'est ça qu'il s'agira d'imiter aussi chez les saints. Et puis chez Don Bosco, il y a quelque chose d'assez bouleversant. C'est un saint qui a... C'est vrai, il a des visions, plusieurs songes, plusieurs guérisons, même une résurrection d'un enfant qui était mort, enfin, des choses assez extraordinaires qui se manifestent dans la vie de ce saint. Mais au fond, la caractéristique principale de ce saint, qui est le plus fort dans la vie de saint Jean Bosco, c'est peut-être ce réalisme du saint. Un réalisme fou, bien sûr, mais un réalisme. C'est-à-dire qu'il se mettra vraiment à l'école de Dieu. J'avais un vieux père spirituel à une époque, qui est mort à 96 ans, qui m'a appris une chose bouleversante, qui était vraiment une lumière pour moi, dès que je l'ai rencontré en 86. C'était vraiment la lumière spirituelle. Dieu nous parle par le réel. Notre vocation, c'est l'obéissance au réel. L'obéissance au réel. Et ça m'a toujours habité. Et je crois que c'est une des grandes clés de la vie spirituelle et de la vie chrétienne en général. L'obéissance au réel. À travers les événements de la vie, à travers les circonstances de la vie, Dieu nous parle et nous enseigne quelque chose. Et chez Jean Bosco, c'est bouleversant parce que c'est vraiment ça, la pédagogie de Dieu. Il deviendra un grand pédagogue au milieu de ce siècle. Maintenant, je crois que ça diminue un petit peu, mais au milieu de ce siècle, il y avait quelques 30 000 salésiens répartis dans le monde, dans une centaine de pays. Enfin, c'était des prêtres qui étaient partis enseignant aux enfants dans tous les coins de la terre. Et on voit encore, quand on va dans les pays du tiers-monde, en Inde en particulier, ils ont un rayonnement extraordinaire avec des œuvres vraiment inspirées de Jean Bosco. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant d'être un grand pédagogue lui-même, il n'a pu l'être parce qu'il s'est mis à l'école, il s'est mis à l'école de Dieu. Il a appris du Seigneur et s'est laissé guider par le Seigneur. Et c'est de là qu'il a pu ensuite... développer aussi sa propre pédagogie. Alors ce qu'elle a découvert dans la pédagogie du Seigneur, on le verra bien, ce réalisme des événements, parfois très durs, parfois très violents, qui se passent dans la vie. Simone Veil, la philosophe, pas la ministre française de... La philosophe, celle qui est morte en 1942 dans un camp de concentration, avait écrit un texte assez bouleversant. Elle avait dit « Dieu n'a qu'un langage, c'est « je t'aime ». Dieu n'a pas de mots pour dire « je te hais », qui est le contraire de « je t'aime ». Tout est un « je t'aime » de Dieu. Le verre d'eau qui nous vient sur la table est le « je t'aime » de Dieu. La gorge sèche après 2 jours dans le désert sans avoir rien trouvé à boire est un « je t'aime » de Dieu. Dieu est comme une amante auprès de son amant qui ne cesse de lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Dieu est « je t'aime » comme l'émeraude est verte. Il ne peut être que « je t'aime », c'est son être même. Elle disait, si moi j'aimais comme Dieu aime, eh bien je serais aussi je t'aime comme une émeraude est verte. Elle mourra dans un camp de concentration et ça m'a frappé cette phrase, enfin ce texte, ça m'a transpercé même, ce texte de Simone Veil, de dire que tout est un je t'aime de Dieu. Si Dieu compte les cheveux de nos têtes, si Dieu nous conduit chaque seconde avec son incroyable tendresse et délicatesse, si Dieu n'est pas étranger au moineau qui tombe d'un arbre, eh bien combien plus ne l'est-il pas à tout ce qui arrive dans notre vie? Et par conséquent, eh bien là-dedans il y a un je t'aime de Dieu à découvrir. Il y a un je t'aime de Dieu à découvrir. On peut passer à la révolte, bien sûr, on peut passer à la rébellion, au désespoir devant ces événements de la vie, mais il y a un « je t'aime » de Dieu à découvrir.